un exemple, je suis avec ma femme dans la préparation de mariage et on avait cette situation, on a demandé aux couples de choisir des mots qui expriment ce qu'ils ne souhaitent pas dans le mariage, ce qui peut être vraiment un problème dans le mariage. Et sur 4 couples, il y avait 4 personnes qui ont choisi le mot « séparation ». Bah, tout le monde était un peu content parce qu'ils avaient trouvé que c'est le même problème. Ils ont mis le doigt sur le problème numéro 1. Et nous, avec ma femme, on a dit « mais attendez, pas si vite, parce que vous avez tous utilisé le mot « séparation », mais on ne sait pas ce que ça veut dire finalement. » Avant de dire que oui, tout le monde est d'accord, dites ce que c'est. Bah, le premier, il était dans les ventes, donc il était parti parfois 10 jours de voiture. Mais oui, la séparation, c'est séparation fréquente et assez longue de sa femme, et il avait peur que ça allait agir contre la réussite de leur mariage. C'est l'absence répétée et pendant la période longue, et c'est cette absence, ça veut dire l'absence finalement. Ah ben, le deuxième, il dit, mais c'est pas du tout ce que je pensais moi. Je pensais que, ouais, ma femme, elle peut faire du yoga, elle peut lire toutes sortes de choses pendant que je travaille, et pendant qu'elle travaille et je cherche des choses, je peux m'intéresser à toutes sortes de choses. Et peu à peu, on commence à se séparer intellectuellement et dans les intérêts, ce qui rend le mariage difficile. Et le troisième dit, ah ben dis donc, c'était mis ça, magique. Ah, j'ai peur simplement de le divorce. Ah, ça, le divorce, ça, c'est la séparation qui me fait peur, ça détruit tout cet amour et le reste. Et le quatrième, il dit, ah, non, j'ai jamais pensé à ça, parce que pour moi, la séparation, c'était la mort. Parce qu'un jour, un de nous deux va mourir, et ça crée une situation absolument intenable pour l'autre. Ça, c'est la séparation vraiment définitive et terrible. Oui, un seul mot, oui, le langage, extrêmement important, dans simplement le dialogue quotidien, mais aussi dans le dialogue interculturel, et encore plus peut-être, et interreligieux, pour faire l'effort de comprendre ce que les gens veulent dire. Une troisième, c'est très important, c'est qu'il ne faut pas, comment dirais-je, il faut juger les autres par le sommet, et pas par les sous-produits des autres religions, par le sommet de ces religions, et pas par les sous-produits. Et là, j'ai peur que nous avons tous fait l'expérience de ce que ça peut donner de négatif. Une expérience extrêmement amère, je parle en chrétienne comme moi, je veux parler de l'évangile, mais les autres réduisent le christianisme à l'inquisition, aux croisades, à la pédophilie. En Amérique, ça c'est un problème terrible dans les pays anglophones, etc. Et moi je souffre énormément quand les autres réduisent toute la tradition chrétienne à ça. C'est quelque chose de terrifiant. Et autrement dit, ils sont en train de juger la foi chrétienne par les sous-produits, c'est-à-dire que ce qui est produit simplement parce que c'est des hommes et des femmes comme vous et comme moi qui disent ces religions, il y aura toujours des manquements. Donc il faut aller au sommet. En France, oui, j'ai souffert parce que souvent les gens vont dire, mais vous regardez le bouddhisme et le christianisme, mais le bouddhisme c'est une religion qui n'a jamais connu de violence et le christianisme c'est une tradition qui ne fait que générer la violence partout. Où ça va avec les missions, avec ouais, mais c'est vite fait ça. C'est comparer le sommet de l'un, religion qui n'est pas toujours vraie d'ailleurs, religion de paix, avec le sous-produit de l'autre, et c'est vite fait. Et on voit ça constamment en France. Quand j'étais au Japon, c'était le contraire. Parce qu'il y a très peu de chrétiennes, il y a à peu près le même pourcentage de chrétiennes au Japon qu'il y a de bouddhistes en France, mais les chrétiennes au Japon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler de tous les abus institutionnels de bouddhisme à travers les siècles et aujourd'hui, l'accumulation de richesses, etc., etc. Si j'avais écouté ça, qui était les sous-produits, je n'aurais jamais étudié le bouddhisme. Et le bouddhisme est vécu aussi par les hommes et les femmes que nous. Il faut dépasser ces sous-produits pour aller vers le sommet, ce qui est l'enseignement de Bouddha, tous les visées que propose le bouddhisme, etc. Le dialogue, c'est entre l'évangile et entre ce qui est le plus riche dans le bouddhisme, le sommet. Parce que quand on fait ça au sommet, il ne faut pas oublier que ces nuages sont là. Les sous-produits, c'est comme des nuages sur une montagne. Aussi longtemps qu'on est au niveau des nuages, on ne voit que ça. Il faut monter au-delà des nuages, où on voit plus clair. Les deux côtés, on voit plus clair, beaucoup plus clair d'ailleurs. Mais sans oublier que ces nuages sont là, parce que si on oublie que les nuages sont là, c'est très dangereux parce qu'on risque de retomber là-dedans. La règle, juger la religion de l'autre par ses sommets et pas par ses sous-produits. Pas si simple, mais il faut essayer quand même. En pensant à sa propre souffrance, ça aide beaucoup à respecter la situation de l'autre.